Radio Okapi.
À la une de cette session d'actualité, prolongation des 15 jours supplémentaires de la trêve humanitaire à l'est de la RDC. C'est une nouvelle opportunité pour la paix, précise Washington dans son communiqué publié hier mercredi. Le Congrès américain diligente une mission en RDC sur la situation qui prévaut à l'est du pays. Ses représentants qui séjournent déjà à Kinshasa ont été reçus hier par le président de l'Assemblée nationale. La journée internationale Nelson Mandela, c'est aujourd'hui. Radio Okapi reçoit dans ses journaux le professeur Kaumba Lufunda, auteur du livre « Ubuntu, philosophie de Nelson Mandela ». Il revient sur l'importance de cette journée. Bonjour à toutes et à tous. La trêve humanitaire en vigueur à l'est de la République démocratique du Congo, depuis bientôt 2 semaines, a été prolongée de 15 jours supplémentaires. L'annonce a été faite par le gouvernement américain dans un communiqué signé mercredi. Une nouvelle opportunité pour la paix, précise Washington dans ses communiqués. André Kitenge pour les détails.
La première trêve humanitaire doit prendre fin ce vendredi 19 juillet à minuit. Elle vient d'être prolongée de 15 jours par les États-Unis d'Amérique et prendra donc fin le 3 août prochain. Dans un communiqué signé le mercredi 17 juillet, les États-Unis indiquent que c'est dans le cadre des efforts visant à mettre fin au conflit entre les FARDC et les rebelles du M23. Tout en saluant cette prolongation de 15 jours acceptée par les parties au conflit à l'est de la République démocratique du Congo, le département d'État américain appelle tous les acteurs de la région à respecter cette trêve. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola pour soutenir les efforts diplomatiques régionaux dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à une cessation durable des hostilités, écrit le département d'État américain. Signalons que cette nouvelle trêve intervient alors que des combats sont signalés entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23, ce qui n'a pas permis aux organisations humanitaire d'accéder facilement aux zones où se trouvent des dizaines de milliers de déplacés et de retournés dans le territoire de Lubero. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
À juste titre, un notable du sud de Lubero, au nord Kivu, plaide pour l'ouverture d'un couloir humanitaire entre ces entités et la partie nord du territoire de Rutshuru. C'est en rapport avec l'annonce de la prolongation des 15 jours de la trêve humanitaire recommandée par les gouvernements américains dans cette zone des conflits armés. Aucune action humanitaire concrète n'a été rapportée durant les 2 semaines de la trêve finissante, déplorent d'autres acteurs. Bernardin Nyangui.
Pendant les 2 premières semaines de cette trêve humanitaire, des centaines de familles déplacées sont retournées dans leur village, notamment dans la chefferie de Buito, fait remarquer la coordination de l'ONG locale Veille humanitaire œuvrant dans cette zone. Cependant, excepté quelques évaluations des besoins urgents de prise en charge médicale, aucune assistance humanitaire n'a accompagné ces retours de déplacés. Ce qui pousse Ezeka Nendou, notable et député provincial honoraire de Lubero, à plaider en faveur de l'ouverture d'un couloir humanitaire dans la zone.
Plusieurs organisations humanitaires ont peur de travailler dans les zones sous contrôle du M23. Demandons à la même Maison Blanche de dire aux éléments du M23 de se retirer dans certaines zones comme la commune de Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, à créer un couloir humanitaire qui sera supervisé par la MONUSCO. On fait de permettre une assistance digne et sécurisée dans les 15 jours de prorogation.
Près de 80% des populations de la partie nord de la chefferie de Buito sont déjà retournées dans leur village occupé par les rebelles du M23, indique l'ONG locale Veille humanitaire. Un retour, selon elle, qui nécessite un accompagnement humanitaire. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
Pendant ce temps, sur la ligne des fronts, une accalmie est observée depuis 2 jours sur la zone des combats qui ont opposé lundi et mardi le FARDC aux rebelles du M23 autour de Bweremana. Nous sommes toujours au nord Kivu. C'est au sud du territoire de Masisi. L'armée congolaise avait accusé les M23 RDF d'avoir violé par des attaques contre ses positions la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Au niveau de Bweremana, la société civile déplore la perte de 7 personnes personnes mortes à la suite des bombardements rebelles, alors que 8 autres personnes ont été blessées durant ces 2 jours de combat. Elle dénonce aussi la persistance de la fermeture de l'axe routier Sake Bwereman Arminova à la suite de l'occupation des Chacha par les rebelles du M23, ce qui pour elle ne facilite pas les mouvements des humanitaires dans cette zone. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le Congrès américain diligente une mission de ses représentants à Kinshasa, conduite par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC. Cette délégation a été reçue hier mercredi par le président de l'Assemblée nationale. Au cours des échanges, Vital Kamerhe a fait savoir à ses hôtes qu'il n'y aura aucune solution paisible face à cette situation si les Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur le sol congolais. Michel Kifindangoy.
S'adressant à la délégation des représentants du Congrès américain, le président de l'Assemblée nationale a brossé les grands défis que connaît actuellement la RDC, notamment sur le plan économique, social et surtout sécuritaire. Vital Kamerhe a réitéré la position de la RDC. Pour lui, la pacification de l'Est de la RDC passe par les retraits des troupes rwandaises et ougandaises du sol congolais. Vital Kamerhe sollicite donc l'implication des États-Unis afin d'amener le Conseil de sécurité de l'ONU à sanctionner le Rwanda et l'Ouganda, indexés par multiples rapports sur la guerre en RDC. En réaction, le chef de la délégation du Congrès américain rassure la disponibilité des États-Unis à soutenir la RDC dans sa démarche pour le développement. Brian Fitzpatrick.
L'objectif de notre mission était avant tout de renforcer les liens entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, puisque nous avons une commission importante pour le commerce international et une commission pour la sécurité.
Pour clôturer leurs échanges, les deux parties se sont convenues d'approfondir leurs relations diplomatiques parlementaires afin de permettre à la RDC de bénéficier de l'expérience américaine.
Et puis, les réseaux des femmes pour la paix et la sécurité en RDC, qui regroupe plusieurs associations et organisations féminines du pays, a rencontré ce mercredi à Luanda les présidents angolais. En sa qualité de président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL, et facilitateur du processus dit de Luanda, ces femmes congolaises sont venues solliciter de Joao Lourenço la relance des négociations pour la restauration de la paix dans l'est de la RDC. Selon la directrice du Fonds pour les femmes congolaises qui conduisait cette délégation, le président angolais a plutôt accueilli favorablement leur démarche. Il a promis de s'investir pour le retour de la paix dans la région. Julien Lusenge est au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Nous sommes venus rencontrer le président Lourenço pour venir solliciter et demander de relancer le processus de Luanda, demander aussi l'application de la feuille de route, le retrait immédiat des militaires rwandais de notre sol et ougandais pour le retour rapide de la paix. La souffrance de la population est à son comble. On n'a plus de mots pour expliquer cette souffrance. Nous avons rencontré le président. Il a donné son engagement. Il nous a dit ceci. Quand la maison du voisin brûle, ils font venir avec un seau d'eau pour éteindre parce que sinon, le prochain, c'est vous. Ils nous ont dit et rassuré que l'Angola fera tout de son mieux et partant de son expérience, ils ont vécu dans la guerre et c'est passé. Maintenant, ils sont en train de reconstruire leur pays. Donc, ils veulent partager cette expérience, utiliser cette expérience pour restaurer la paix en RDC comme ils ont eu à le faire ailleurs. Le président angolais nous a demandé, en tant que femmes, quand nous portons notre voix pour la paix, il y a les solutions qui arrivent.
Dans le territoire de Beni, au moins 10 personnes ont été tuées mercredi dans une double attaque attribuée aux rebelles des EDF à Kazaroho et Moliso, deux villages du secteur de Benimbaou. Des dégâts matériels ont été également enregistrés au cours de ces attaques. La société civile locale qui déplore cette situation parle jusque-là d'un bilan provisoire. C'est un reportage d'André Kitenge rendu par Sadiki Aboubakar.
C'est vers 9h mercredi matin que la première attaque a eu lieu à Kazaro, village situé à 85 km au nord-ouest de la ville de Beni. Ici, 7 personnes, dont 3 femmes, ont été tuées à l'arme blanche. Quelques heures plus tard, Mais cette fois, l'après-midi, la deuxième attaque est intervenue dans le village de Molisso où 3 personnes ont été tuées. 2 motos et 2 maisons ont été également brûlées par les assaillants, affirme Kinos Katuo, président de la société civile locale.
Les ADF Nalu ont tué dans la matinée de mercredi vers 9h 7 personnes, dont 4 hommes et 3 femmes. Ils ont incendié 2 motos et 2 maisons à Kazaro, village situé à 2 km de Mamove, dans le secteur de Bendimau, tous habitants d'Ocha qui voulaient se rendre au marché de Beoumanyama. Vers 13h dans la même journée, ils ont tué d'autres personnes à Molisso, dans la même localité de Mamove.
Cet acteur de la société civile indique que plusieurs autres personnes ont été enlevées par ces rebelles des ADF. Kinos Katuo recommande aux forces conjointes FARDC-UPDF d'intensifier les patrouilles de combat dans la région pour empêcher de nouvelles attaques. Tous les efforts pour avoir la version de l'armée se sont avérés vains. Rappelons que 3 autres personnes ont été tuées la nuit de lundi à mardi par ces mêmes rebelles des ADF près de Mamove.
Sans plus tarder, rendons-nous à Bounia où la MONUSCO appuie les FARDC pour stopper la progression des rebelles du M23 et mettre fin aux exactions des ADF qui constituent une menace pour les Nord-Kivu et l'Ituri. C'est notamment à travers les renforcements de ses équipements militaires et de l'effectif des soldats aux côtés des forces loyalistes engagées au front. La chef adjointe de la MONUSCO chargée des opérations et de la protection l'a dit mercredi au cours d'un point de presse avec les gouverneurs de l'Ituri. C'était lors de la clôture de sa mission de 3 jours dans la province. Isaac Remoyope.
Une nouvelle unité d'artillerie est déployée à Beni au nord Kivu pour renforcer d'autres positions des casques bleus qui viennent en appui au FARDC contre la M23. Des hélicoptères de combat sont également sur place pour faire face aux menaces de cette rébellion, mais aussi pour arrêter sa progression dans d'autres localités au nord Kivu et en Ituri, a déclaré la chef adjointe de la MONUSCO chargée des opérations et de la protection. Les casques bleus ont également installé des bases mobiles au site de Dirumu, notamment à Idowu, presque à la limite avec le nord Kivu pour étouffer les menaces des ADF. Viviane Vande.
En ce qui concerne nos capacités, nous les avons renforcées. Le déploiement des hélicos armés du côté de Beni, mais aussi nous avons une unité d'artillerie qui est arrivée en appui à nos forces et qui pourra donner un appui feu si cela s'avère nécessaire dans cette confrontation avec le M23.
Plusieurs opérations menées par les FARDC et la MONUSCO de Dirumu ont permis de démanteler les bastions des ADF à Moyo et Manzobe. Le gouverneur de province affirme que les deux forces continuent de travailler ensemble pour garantir la stabilité dans la zone. Le général Johnny Luboya.
Nous avions mené beaucoup d'opérations. Cela nous avait permis de réduire sensiblement le degré de nuisance des ADF. Nous continuons toujours à travailler ensemble.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
En province du Tanganyika, des crues du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga depuis quelques semaines, les eaux se retirent considérablement de plusieurs endroits de la ville de Kalemie qui étaient inondées. Certaines activités économiques reprennent timidement. Un reportage de Paulin Munanga.
Certains endroits comme les maisons d'habitation, les maisons commerciales, les écoles, les hôtels et les routes de la ville de Kalemie qui étaient inondées par les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga sont de nouveau séchées. Les eaux se sont retirées. À la station service Richa sur les boulevards Lumumba par exemple, les activités ont repris après quelques mois d'interruption suite aux eaux qui ont envahi le lieu. Témoignage de Hubert Kalenga, l'un des responsables. Actuellement, les eaux sont séchées. Cet endroit était complètement inondé et nous avions arrêté de travailler. Nous remarquons à présent que les clients reviennent petit à petit. Une partie de la route est déjà praticable. Nous étions au chômage. Pour sa part, la mairie de Kalemie a installé des motopompes sur les boulevards Lumumba au niveau de la partie inondée du centre-ville pour aspirer les eaux. David Moukebambombo, maire de la ville.
La mairie de son côté a fourni des efforts. Nous avons pris des motopompes pour aspirer les eaux sur le boulevard et les reverser dans le lac. On a travaillé jour et nuit avec des motopompes. Ça a tenu quand même. On a diminué les quantités des eaux. Mais nous constatons avec regret que les eaux sortent du sous-sol.
Précisons qu'à certains endroits du boulevard Lumumba et à l'entrée du quartier d'Ave, il y a toujours une présence accrue des eaux et la traversée s'est faite par pirogue. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
À Matadi, les kermesses organisées pendant les vacances pour la détente ainsi que pour les échanges des biens et du savoir sont malheureusement réduites à un lieu d'ambiance où il n'est offert que des bruits, de la musique, la boisson et à manger. C'est ce qu'ont fait observer les opérateurs culturels de la ville de Matadi qui, depuis le début de cette période des vacances, sillonnent les kermesses organisées à travers la province pour s'imprégner des programmes que celles-ci proposent aux vacanciers. Jean-Vital Duampovessa fustige l'organisation de ces kermesses, lesquelles ne favorisent pas l'encadrement de la jeunesse à travers les programmes instructifs et éducatifs. Les reportages de Nana Plurich Mambou.
Nous sommes à la kermesse Makuku Matatu, organisée à l'espace Chaudron de Matadi. Ici, les détenteurs des stands ne proposent que de poulet, chikwang, brochettes et autres grillades, tout comme les boissons de toutes sortes. L'organisation de cette kermesse n'offre que de la musique en invitant les différents orchestres de Kinshasa dans ces lieux pour agrémenter les soirées. Pour l'opérateur culturel Jean-Vital Joser Duampovessa, ces programmes sont quasi inadaptés, surtout pour les enfants et les adolescents.
Cette kermesse qui est organisée ce matin, il me rappelle l'Afikine. Quand on était jeune, on allait à l'Afikine. Il y avait des jeux pour les enfants, il y avait à boire, à manger. Et on apprenait. Si j'ai vu les diamants pour la première fois, c'était à l'Afikine. On pouvait aussi acheter et vendre. Mais actuellement, quand on va dans les kermesses, c'est juste pour aller boire, sur manger porc, la chèvre et tout ça. Si, par exemple, le kermesse aujourd'hui est une occasion pour nous de nous divertir réellement en donnant de l'espace à tout le monde, là, je suis d'accord. Parce que dans certains endroits, on n'entre même pas. Tellement que trop de bruit, donc on cause comme si on était dans un hélicoptère.
Signalons qu'en dehors de la kermesse Makuku Matatu, aucune autre activité n'est organisée à Matadi au profit de la jeunesse. Quelques centres récréatifs basés à Matadi ne sont accessibles à toutes les bourses. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale. Dans la capitale Port-au-Prince, les policiers kényans patrouillent aux côtés de leurs homologues haïtiens. Depuis leur premier déploiement en juin, ces forces étaient cantonnées près de l'ambassade des États-Unis. Cette semaine, c'est autour des zones proches du principal aéroport international qu'elles sont visibles. Rejointes par un nouveau contingent de 200 policiers kényans, ces forces bénéficient du soutien logistique et financier des États-Unis.
L'invité.
Célébration ce jeudi de la Journée internationale Nelson Mandela qui nous rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer les changements autour de lui. Cette journée a été instituée en 2009 par l'UNESCO pour honorer les 67 ans de lutte de Nelson Mandela au service de l'humanité. En tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier des consciences, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre. Pour en parler, le professeur Kaoumba Lufunda, sénateur honoraire et auteur du livre Ubuntu, philosophie de Nelson Mandela, est l'invité de Radio Okapi. Il s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Professeur Kaoumba Lufunda, bonjour.
Bonjour, bien cher Michel Kifindangoy.
Nous célébrons ce jeudi la journée internationale Nelson Mandela. En quoi consiste cette journée?
Merci de m'associer à la célébration de la journée internationale qui est dédiée à cette immense icône africaine qu'est Nelson Mandela. La journée internationale Nelson Mandela, nous la célébrons aujourd'hui, le 18 juillet, parce que c'est une date qui coïncide avec l'anniversaire de naissance de Nelson Mandela. En fait, il était né le 18 juillet 1918. Il est décédé, comme nous le savons bien, le 5 décembre 2013. Et alors, depuis le 10 novembre 2009, l'UNESCO avait décidé de lui dédier une journée. Et c'est pourquoi on avait retenu la date de sa naissance. C'est une manière de rappeler à la conscience humaine l'immense contribution de Nelson Mandela en matière de lutte contre l'apartheid, la ségrégation raciale, de rappeler son engagement en faveur de la promotion d'une culture de la paix et aussi de rappeler à la mémoire collective l'accession du premier noir à la magistrature suprême en République sud-africaine.
Nelson Mandela a consacré 67 ans de sa vie au service de l'humanité. Qu'est-ce que les générations actuelles peuvent retenir de ce personnage africain et prix Nobel de la paix?
Vous savez, Nelson Mandela avait consacré 67 ans de sa vie à la lutte pour la reconnaissance des droits humains et de la diversité culturelle, pour la justice sociale, l'égalité des êtres humains, la réconciliation nationale, et pour le renforcement de la diversité, la reconnaissance de la diversité culturelle, eh bien, tous ces idéaux, nous devons pouvoir les entretenir. Et c'est pourquoi on demande à tous les humains à consacrer quelques temps, au moins une fois par an, parce qu'on dit, lui, il a consacré 67 ans. Nous, on nous demande juste de consacrer 67 minutes à cela, à la justice sociale, à la réconciliation nationale, à la promotion de la diversité culturelle. Et il vous souviendra, il nous souviendra à tous, que Nelson Mandela a promu la philosophie de l'Ubuntu, Bomoto, Bumuntu. Le fait d'être un humain, c'est quoi être un humain? Nous sommes des hommes. Nous sommes avec d'autres hommes. Et avec eux, nous sommes dans des relations de reconnaissance de la dignité de chaque homme. La reconnaissance réciproque.
Nelson Mandela a joué un rôle majeur dans la recherche de la paix en RDC, avec notamment la négociation de l'Outeniqua entre le président Mobutu et Laurent Désiré Kabila. En quoi le leadership de Nelson Mandela peut-il être un modèle pour la classe politique d'une RDC aujourd'hui déchirée par une crise sécuritaire et de légitimité?
Nelson était venu jouer le rôle de réconciliateur entre Mobutu et Mzee Laurent Désiré Kabila. Et quand Mzee Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, il avait compris la leçon. Il a instauré la révolution, pardon. Il ne faut pas éliminer tous les barons de l'ancien régime, vous coupez la tête et les oreilles, non? On instaure la révolution, pardon. Et on a vu, lorsqu'il y a eu passation pacifique du pouvoir d'État, le peuple était réconcilié avec ses dirigeants. C'est vrai, quelques temps après, il y a eu éclatement de la coalition. Et jusqu'à présent, nous en subissons le contre-coup sur le plan de la cohésion nationale. La situation est d'autant plus préoccupante que la guerre s'en est mêlée, alors que la classe politique issue des élections de 2023, cette classe est en train de s'empoigner. On oublie l'intérêt national, on est en train de rechercher les positionnements personnels. Eh bien, plus que jamais, Nelson Mandela devrait nous inspirer tous.
Dans votre ouvrage Ubuntu, vous vous inspirez de l'idéologie de Nelson Mandela pour prôner les valeurs de paix et de cohabitation pacifique. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui des leçons ou des enseignements laissés par Nelson Mandela que vous relayez à travers votre ouvrage?
En somme, le comportement qu'affiche la classe politique aujourd'hui, ça ressemble à des complots ourdis contre le peuple. Ces complots prennent quelle forme? Sous forme de corruption, de détournement des deniers publics, de conspiration contre le bien-être du peuple. Le peuple souffre, on le dit tous les jours. Quand on voit le prix du pain, le prix de ceci, et puis quand on y ajoute aussi des dérives tribales, eh bien, si notre démocratie connaît des difficultés, ce n'est pas à cause du peuple. C'est le peuple qui est victime de cette situation. C'est donc de la responsabilité de la classe politique qui refuse de respecter les lois. C'est au milieu de la justice que les gens ne veulent pas dire les droits. On ne veut pas reconnaître au peuple ses droits à une vie saine et digne. Eh bien, tout cela devrait être corrigé. Corriger cela, ce serait véritablement suivre le modèle de Nelson Mandela.
Professeur Kaoumba Lufunda, je vous remercie.
Merci, cher ami.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'actualité sur Radio Kapi, mise en onde par Debs Vita. Martin Sebudjangwe et Blaise Shindani Kambala l'ont respectivement supervisé et coordonné. Au micro, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.